des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le temps des écrivains sur France Culture. Aujourd'hui, nouvelle rencontre avec deux très jeunes écrivains qui publient leur premier roman, deux romans que j'ai trouvé remarquables vraiment, c'est-à-dire qu'ils se remarquent dans cette rentrée par leur violence, par leur innocence aussi. Alors est-ce que c'est contradictoire? Peut-être, on dira, c'est contradictoire, on peut pas être violent et innocent. Eh bien non, c'est pas contradictoire, vous le verrez quand vous l'entendrez, quand ils en parleront. L'une de ces, honneur aux femmes, est née en 1990, elle s'appelle Geoffrine Donadieu et elle publie Une histoire de France chez Gallimard. Bonjour Geoffrine Donadieu.
Bonjour.
Et l'autre est un garçon, il s'appelle Victor Gestin, il est né en 1994, il publie La Chaleur chez Flammarion. Bonjour Victor Gestin.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, je suis vraiment très heureux de vous donner l'occasion de vous exprimer sur ce premier texte publié. Et bravo d'abord à tous les deux. Première question, vous connaissez ou pas? On est au mois de septembre, vous êtes sortis fin août, vous êtes croisés dans le grand carnaval des salons du livre et autres rencontres.
Oui.
Geoffrine Donadieu.
Oui. Nous nous sommes croisés et on ne se quitte plus.
Ah oui, vous, il y a beaucoup de...
On s'est revus quelques fois. En fait, c'est, enfin moi en tout cas, c'est la première fois que j'ai une amie qui fait le même travail. En fait, vraiment, du coup, c'était de parler aussi de cuisine, de détails. C'était super rassurant.
De cuisine littéraire.
De cuisine littéraire. Ouais.
Et autres, hein, ouais. Ça se marie bien. Ami, oui. Vous dites Victor Gestin. Vous êtes devenu ami.
Bah, ça commence, mais ouais, c'est bien.
Et puis c'est rassurant de rencontrer quelqu'un qui sort un premier roman en même temps, parce qu'on a les mêmes questions, les mêmes interrogations. Tout d'un coup, il y a ces radios, ces entretiens, ces salons, et on est un peu perdu au milieu de cette jungle. Enfin, c'est un nouveau monde, et on découvre, donc découvrir à deux, c'est plus sympa.
C'est excitant ce moment de rentrée littéraire, qui est une exception française, hein, d'ailleurs. Quand on sort, on a fait ses premières armes, on arrive avec son premier texte.
Oui, quand même, c'est excitant, c'est stimulant de sortir de la tanière. Quand même, on a écrit là d'un coup de voir plein de gens et avec en même temps la conscience que ça va pas durer très longtemps et qu'il faut en profiter et qu'ensuite on reviendra avec autant de plaisir
dans la tanière.
La solitude, voilà. Mmh. Là, cette alternance donne assez envie. Ouais.
C'est comme une tanière que vous voyez justement, cet atelier de l'écrivain.
Une grande solitude en tout cas. Après, tanière, non. Par exemple, moi j'ai bien aimé écrire dans des cafés, donc quand il y a des gens autour. Donc c'est pas non plus la grotte, quoi. Mais
utilisiez le mot tanière.
Ouais, tanière mentale.
C'est animal.
Tanière mentale. Une grosse solitude et concentration. Ouais.
Ouais. Et vous, Geoffrine Donadieu, c'est une tanière aussi?
Oui, j'ai besoin de me créer une ambiance, d'avoir un lieu où je peux me retrouver, parce que j'écris de manière très organique, c'est viscéral, et j'ai besoin d'une profonde solitude. Après, comme Victor, j'aime beaucoup aller dans les cafés, mais dans les cafés, c'est vraiment pour rechercher des idées, pour jeter les mots sur mes carnets. Mais après, je reviens chez moi.
Tout écrivain est souvent un lecteur. Est-ce que vous lisez de la littérature contemporaine?
Oui.
Mmh. Vous lisez qui?
Moi, c'est Annie Ernaux. Mmh. Annie Ernaux, c'est ma Bible. Mmh. Elle est posée sur ma table de nuit.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail d'Annie Ernaux?
Il n'y a pas de fioriture. Elle est directe, elle dit les choses, elle est vraie. Elle s'approche toujours au plus près de sa vérité, du réel. Elle décrit aussi un milieu social qui n'est pas celui de la bourgeoisie. Elle ne cherche pas la facilité. Elle se remet en question et j'admire tout son travail.
Elle écrit sur le corps, beaucoup aussi comme vous.
Oui, sur le corps, sur la femme, la transformation, toutes les étapes pour devenir femme. Elle est sans cesse en recherche et non, c'est une femme que j'admire, que je respecte et... J'ai eu d'ailleurs une première lettre. Ma première lettre chez Gallimard, c'était elle qui me l'a envoyée.
Après avoir lu votre livre.
Ouais. Et ça, je crois que c'était le plus beau cadeau.
Et qu'est-ce qu'elle vous disait sans trahir le secret de la lettre?
Elle me disait qu'elle avait été touchée par mon écriture, par le milieu social que je décrivais et que Romy était une Antigone des temps modernes.
Donc c'est pas mal.
Ça m'a... Oui.
Pas mal.
Flatté.
Victor Gestin, vous lisez, vous, de la littérature contemporaine?
J'en lisais assez peu, je lisais plutôt des trucs plus vieux, et puis là quand même ces derniers temps je m'y suis un peu mis, et puis j'ai découvert, oui, là je pense à un auteur d'Actes Sud, Marc Biancarelli, le Corse, qui a, je trouve, un mélange de registres, là j'ai lu Orphelin de Dieu, que j'ai trouvé très très brutal, en même temps très sensible, très lyrique, en même temps complètement rugueux, un peu brut dans la langue, et tout. Et en fait c'est et aussi très poétique, quoi.
Et sinon, vous lisiez quoi? Vous lisiez plutôt des trucs plus vieux.
Quoi? En tout cas, ce qui m'a nourri peut-être pour ce roman-là, c'est certains écrivains qui mettent en jeu le corps très fort. Et des gens comme Jean Genet, par exemple. Des allers-retours entre le corps et l'esprit permanent et qui motivent l'écriture. Ou alors Jules Renard, qui n'a pas grand-chose à voir avec Genet, je crois, sinon ça, quoi. Il s'attache aux gestes, aux mains, aux regards, aux démarches des gens. Donc ça m'a bien nourri, je pense.
C'est intéressant parce que je vous ai réunis parce que j'aime beaucoup, beaucoup vos livres, mais il y a aussi effectivement un certain nombre de passerelles, notamment cette omniprésence du corps qui parle. Si on va vers les livres plus anciens, est-ce qu'une histoire de France doit aussi à quelques écrivains plus anciens qu'Annie Ernaux, moins contemporains?
Après, moi, c'est beaucoup de pièces de théâtre, parce que j'ai toujours aimé le théâtre, et j'aime beaucoup les textes de Tennessee Williams, où il y a un rapport au corps et à la folie. Et bon, quand j'ai réfléchi, oui, ce sont plus des auteurs de théâtre. Je réfléchis, après, il y a Duras, que j'aime beaucoup, mais c'est quand même récent. Calafert, mais c'est aussi récent. Mais là, je parle.
Calafert qui scande d'ailleurs une histoire de France. Hein, Mécanique des femmes.
La mécanique des femmes. La mécanique des femmes est très présente. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a poussé ou donné envie d'écrire, c'est-à-dire d'embrasser ce que Salman Rushdie appelle, il nous l'avait dit ici, cet art ancien qu'est la littérature?
Moi, ça me semble le moyen le plus limpide, le plus naturel pour sortir des choses. Après, il y a la musique aussi, moi, qui me tentait beaucoup quand j'étais enfant. Et je pense qu'il y a quand même un truc comme ça dans l'écriture aussi, de vouloir un peu courir après la musique parfois, qui semble anticiper mieux que d'autres arts, anticiper les choses, aller plus vite en quelques accords, aller plus vite que 15 chapitres. Donc je pense qu'il y a une espèce de frustration musicale peut-être qui est là un petit peu. Voilà.
Et vous, Geoffrine Danieu?
Moi, j'adorais raconter des histoires à mon petit frère, puis à mes copains-copines dans la cour de récréation. Donc très vite, j'avais mes carnets, mes stylos à paillettes et j'inventais des univers. Puis j'adorais jouer. Et je crois que écrire, c'est une prolongation du jeu, et c'est rester enfant aussi. J'aime bien jouer.
Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi rester enfant? Parce qu'on invente des vies comme quand on est dans la...
Oui, l'enfant joue, passe d'une vie à l'autre, il s'amuse, il pleure, les émotions sont brutes, il n'y a pas de filtre et il dit les choses. Et ça, j'aime la spontanéité de l'enfant, et la spontanéité-là, peut-être qu'on peut la retrouver dans l'écriture, je pense. Enfin, on peut se permettre de dire des choses.
Et il y avait des textes avant, enfin, c'est le premier qui est publié. Vous avez d'autres textes derrière vous qui sont restés lettres mortes?
Ah, il y a eu des deux. Il y a eu des romans ratés, Lettres mortes. J'avais eu une pièce de théâtre éditée chez La Guimpante et compagnie. Ça, c'était petite maison d'édition, mais très chouette.
Quel était le titre?
Alors, ça s'appelait Hôtel particulier, pour les initiales. Ouais. HP, ça me faisait rire.
Ouais. Et qui racontait aussi.
Et qui racontait l'histoire de 13 personnages enfermés dans un hôpital psychiatrique, avec une vie dans cet hôpital.
Donc c'était d'abord une écriture théâtrale, en fait, avant le roman est venu après.
Il y avait aussi le roman, mais le roman, non, je n'ai pas réussi avant une histoire de France à être édité. Il est raté.
Vous sortez d'un atelier d'écriture?
Il y a 2 ans, j'ai fait un atelier d'écriture chez Gallimard avec Jean-Marie Laclaftine.
Qui est votre éditeur maintenant, parce que vous le remerciez justement à la fin. Ouais, ouais. Et ce qui a motivé le fait de s'inscrire dans ces ateliers d'écriture?
J'avais écrit un roman avant une histoire de France, et je commençais à avoir des retours de lettres d'éditeurs qui étaient très positives et encourageantes, mais c'était négatif. Hein, le résultat, on n'est pas édité, hein, donc je crois que j'étais très frustrée, très déçue, et je me disais, j'arriverai jamais à m'y remettre, et j'avais besoin d'avoir un regard extérieur. Je me suis inscrite à cet atelier, et Jean-Marie Laclaftine a ce don de tirer les choses chez les gens, de nous aider à trouver notre univers.
Et c'était la même histoire déjà, justement, qui avait été envoyée, mais pas retenu ou c'était
non.
un autre
voilà. Non, c'était vraiment quelque chose de très différent. Et le jour de l'atelier, Jean-Marie Laclafine nous donne un mot. Il nous a donné le mot serrure. Et ce qui est sorti, c'est France touche Romy dans la chambre. Et puis j'ai déroulé et Jean-Marie a dit mais si tu l'as ton histoire en fait, déroule. Et c'était parti.
Et vous, Victor Gestin, alors il y avait justement, il y avait d'autres textes avant ou c'est le premier que vous jugez achevé en tout cas?
J'en ai écrit plusieurs autres avant, romans plus ou moins achevés, mais il y en a eu un quand même il y a 3 ans que j'ai envoyé sérieusement à une quinzaine d'éditeurs sans réponse positive. Puis après, il y a eu celui-là.
Et publier, c'était important pour vous?
Bah oui, parce que moi, je n'osais rien faire lire jusque-là, et même là, j'ai mis du temps, celui-ci, à le faire lire à mes proches. Donc, il y avait une espèce de ça, et puis aussi de chercher à se légitimer un petit peu dans l'écriture, quand même. C'est quand même pas évident de dire, quand ça nous rapporte aussi pas d'argent, de dire j'écris, et que nos proches voient qu'on y passe des mois. C'est quand même quelque chose qui... Il y a de la honte aussi, des fois, qui est là. Donc, je pense que ça donne beaucoup d'énergie et un sentiment de légitimité important.
De la honte, pourquoi?
Parce que... sans doute qu'il y a mieux à faire ou que... Je sais pas, c'est le terme projet, vous voyez, quand les gens vous disent je suis sur mes projets personnels, souvent on a une espèce de mini pensée, genre ça n'aboutira pas, mon ami, vous voyez, donc pour que ce soit plus seulement un projet, mais un travail en fait, voilà, c'est ça.
Il y a un ton, il y a une voix dans vos deux livres, j'y étais vraiment très, très sensible, peut-être parce que j'aime ce qui claque, ce qui va loin, parfois même très loin, mêlant, je le disais, l'innocence et la violence. Ça convient parfaitement au sujet que vous traitez l'un et l'autre. Victor Gestin, je dis un mot sur La Chaleur, c'est un roman assez court qui fuse vraiment comme une balle. On est dans un camping, on est au bord de l'Atlantique, dans les Landes, il y a des tentes et des bungalows et c'est la dernière nuit avant le départ, le lendemain donc. Et pendant cette nuit, Léonard, 17 ans, assiste à la mort par étranglement sur une balançoire du camping d'Oscar, 17 ans lui aussi. Oscar vient d'embrasser Luce, une fille du camping, et non seulement Léonard ne porte pas assistance à Oscar, mais il fait disparaître le corps dans le sable, donc sous le sable de la plage. Il récupère son portable. Et la suite du livre, c'est le récit du réveil, de la dernière journée de vacances écrasée de soleil et dans la proximité de Luce. Justement. Et ce qui m'a vraiment passionné dans ce livre, c'est la façon dont vous donnez à votre personnage, non pas une indifférence, mais une sorte d'état de flottant, en fait, entre deux eaux, loin des injonctions à la jouissance qui sont un peu diffusées par les haut-parleurs du camping, et par la famille aussi, qui lui dit, tiens, il faut que t'en profites. Et pourtant, il n'y a pas de jouissance apparente, mais le corps ne cesse de s'exprimer dans ce livre par la sueur, les évanouissements, les battements de cœur, les baisers aussi, les frôlements, sous la chaleur qu'on arrive vraiment à toucher dans votre livre, une chaleur qui gagne sur tout, sur les vagues, sur le sable, sur le temps, sur les esprits. C'est très sensuel, c'est très subtil, ça va directement là où ça doit aller. Ce titre de La Chaleur, qui semble à la fois convenir pour parler de météo et de désir, on dit être en chaleur aussi, parfois. Il est venu très vite, c'était le titre de départ.
C'était le titre de départ, et en fait, il y a une ambivalence dans ce terme énorme. Alors, en effet, la chaleur du soleil, la chaleur des corps, du désir, la chaleur d'un corps sous le sable. Mais il y a toujours un revers de médaille. En fait, c'est pas comme le froid. Par exemple, le froid, il y a pas de sensualité liée au froid. La chaleur, il y en a une, c'est la danse, c'est le désir. Mais derrière tout ça, derrière le désir, il y a la peau qui bronze et la peau qui crame. Vous voyez des gens qui partent en vacances, en effet, mais aussi la chaleur qui pousse des gens à quitter des territoires, par exemple, parce qu'il fait trop chaud. Et il y a toujours un moment où ça commence à déconner, la chaleur, en fait. Donc c'était de jouer sur cette ambivalence-là et dans l'écriture aussi d'osciller entre deux chaleurs, celle la bonne chaleur, comme il dit, c'est celle du désir, c'est celle qui se répand dans le corps, et la mauvaise chaleur. C'est comme ça me fait penser à la transpiration, vous voyez, dans un acte sexuel, des fois, il y a la bonne transpiration, celle qui glisse, et il y a la mauvaise sueur, celle qui fait froid, celle quand ça va pas, quand le désir il déconne, il y a la mauvaise sueur. C'est pareil, il y a toujours deux trucs.
Il y a un passage d'ailleurs où il touche justement Luce, et Luce ne veut pas, et il sent sa propre peau à lui. Et il explique, c'est ce qui se passe quand vous touchez quelqu'un qui veut pas que vous le touchiez. Vous sentez votre propre peau et plus la peau de l'autre.
Ouais, je crois que c'est vrai. Vous l'avez dit. Si on touche quelqu'un qui veut pas, on sent plus sa peau, comme si elle voulait pas se faire toucher, on sent la sienne. Ça nous renvoie à nous-mêmes.
Voilà, ça aurait pu s'appeler la peau, mais c'était déjà pris. Geoffrine Donadieu, Innocence et violence, alors, à la lettre. Chez vous et pour cause, il est question de violence sexuelle faite à une enfant. Alors j'entends de l'autre côté peut-être des auditrices, les auditeurs qui vont se dire trop de violence, on n'en peut plus, mais je vais leur demander de nous écouter attentivement parce que D'abord, il est question de la violence d'une femme sur une petite fille, qui est un sujet assez rare. Et puis ce livre, il est comme le livre de Victor Gestin, d'ailleurs implacable dans la façon de raconter ce qui est de l'ordre peut-être de l'irracontable. Et en même temps, vous le racontez dès les premières pages, sans vouloir épargner le lecteur. J'ai l'impression que c'est ce qui préside à ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faudrait épargner le lecteur? D'ailleurs, j'aimerais bien, si elles sont dures, que vous lisiez vraiment les premières lignes de cette histoire de France.
Avec son majeur, elle tire la lèvre droite. Son index joue avec la vulve et appuie sur le clitoris. Sa main claque violemment contre son sexe. Elles s'installent chacune à leur place. France, toujours à droite. Plus facile de ce côté de glisser sa main dans la culotte blanche en coton avec des marguerites. Chaque jour, après le goûter, Max et Léo jouent aux petites voitures dans leur chambre.
Merci Geoffrine Donadieu. Donc, ce sont les premières lignes d'une histoire de France donc qui paraît chez Gallimard. Je disais, est-ce qu'il faut épargner le lecteur? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Non, il ne faut pas épargner le lecteur. Après, quand j'ai écrit une histoire de France, c'est une histoire qui est dure, qui est violente, mais je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas à déplaire. C'est un langage qui est cru, mais je tiens à m'approcher du réel et d'une vérité, et c'est la vérité de Romy.
Voilà, et la vérité aussi, hein, on l'a découvert dans ses premiers mots, c'est que de l'autre côté en fait de la porte, il y a deux enfants qui jouent. C'est une petite fille à qui il arrive ça, et c'est sa voisine, la mère de famille, qui l'abuse. Et cette France, hein, elle s'appelle la voisine. Donc il y a gentiment, et je mets des guillemets à gentiment, accepté de dépanner Hélène, la mère de Romy, pour garder sa fille. Hélène souffre en effet d'une grave maladie, c'est une bonne mère, mais elle est souvent hors d'état, souvent à l'hôpital. Il y a un père, Philippe, il est militaire, ça se passe chez les militaires, on est à Toul, il est souvent en mission, il boit aussi. Et c'est ainsi que Romy, à 9 ans, se retrouve sous l'emprise de France, qui la viole et qui jouit de ça, d'une enfant. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime ce livre? C'est difficile d'aimer, mais on peut dire qu'il est puissant, qu'il est essentiel, qu'on ne le lâche pas parce qu'on veut comprendre, on veut comprendre l'histoire de Romy, l'histoire de France. Pourquoi avoir centré d'ailleurs dans ce titre une histoire de France, vous centrer sur la prédatrice? Or, c'est l'histoire de Romy qu'on lit.
Parce que Romy n'existe pas. Romy est un objet, elle n'est plus le sujet de sa vie. France lui a volé son enfance, elle l'a violée. Donc Romy n'existe plus, c'est un petit fantôme qui subit, c'est un petit soldat inconnu.
Soldat inconnu, il est beaucoup question, vous utilisez d'ailleurs tout le registre de la guerre. Et puis on va suivre en fait Romy de 9 ans à ses 19 ans à peu près. On va rééquilibrer les choses quand même, Victor Gestin, parce que on a écouté les premiers mots et le ton de Geoffrine Donadieu avant d'entrer dans chacun de vos livres. Je voudrais qu'on vous entende lire aussi les premières lignes de La Chaleur, c'est chez Flammarion.
Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes d'une balançoire, comme les enfants dans les faits divers. Oscar n'était pas un enfant. On ne meurt pas comme cela sans le faire exprès à 17 ans. On se serre le cou pour éprouver quelque chose. Peut-être cherchait-il une nouvelle façon de jouir. Après tout, nous étions tous ici pour jouir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas bougé. Tout en a découlé.
Tout en a découlé, on verra la suite d'ailleurs immédiatement, Victor Gestin, parce qu'on commence avec vous. On écoute d'abord votre choix musical, vous avez choisi Johnny Cash, de Long Black Veil.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
10 years ago, on a cold dark night, someone was killed neath the town hall light. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's wife. Did I hear somebody applaud?
Now the scaffold is high and eternity's near. She stood in the crowd and shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries over my bones.
Johnny Cash, The Long Black Veil, c'est le choix de Victor Gestin qui publie La Chaleur, son premier roman chez Flammarion. Pourquoi ce choix musical, Johnny Cash ?
Il y a plusieurs façons pour la musique d'influencer dans l'écriture, mais je pense la plus primaire, la plus bêta aussi, c'est celle-ci en l'occurrence, c'est quand il y a un texte qui donne envie de l'adapter. En fait, je crois qu'il faudrait adapter cette chanson tant ce
pourquoi
qu'elle raconte.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Déjà, juste pour moi, c'est le meilleur album de tous les temps. C'est son live à prison de Folsom en 68, première fois qu'on enregistre en prison. Il est là devant une foule de criminels qui rigolent, qui font des blagues. Et donc, il raconte, en gros, pour essayer de faire vite, le narrateur raconte que quelqu'un a été tué sur la place d'un village et que cette nuit-là, tous les gens qui ont vu le tueur fuir s'accordent à dire qu'il lui ressemble beaucoup au narrateur, ce tueur. Alors, on emmène le narrateur devant le juge et le juge lui dit « Où est-ce que vous étiez la nuit dernière ? Est-ce que vous avez un alibi ?» Et là, le narrateur, il préfère ne rien dire, parce que cette nuit-là, il était dans les bras de la femme de son meilleur ami. Voilà. Alors, il est condamné à mort, il est tué et il est enterré. Et chaque soir, il raconte dans le refrain qu'une femme vient sur sa tombe, de temps en temps, dans un long manteau noir. Voilà. Donc, là, il y a un canevas tragique, absolument sidérant, je trouve, d'une espèce d'absurdité qui peut faire penser à des grands textes, au procès, à l'étranger, un mensonge complètement con qui fout une vie en l'air. Mmh. Et peut-être qu'il y a un lien un peu avec le... Enfin, en tout cas, moi, qu'elle me touche, parce que dans le roman, donc, dans La Chaleur, c'est aussi tout part d'une connerie, tout part d'un acte absurde, laisser mourir quelqu'un et l'enterrer, et ensuite se demander dès le lendemain, dans une énorme gueule de bois, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ?
Et quand vous disiez il faudrait l'adapter, vous pensiez à quoi ? Faire un roman sur cette chanson ?
Ouais, je sais pas si ça a déjà été fait, ce process-là, mais ouais, je pense qu'il y a du souffle là-dedans, quoi. Là, cette chanson dure 2 minutes à peine, mais il y a moyen de faire beaucoup de pages sur ça.
Oui, je rappelle quand même donc La Chaleur, quelle est l'histoire racontée. Donc premier roman chez Flammarion, Victor Gestin, roman qui porte bien son nom. On est dans un camping, on est au bord de l'Atlantique, dans les Landes. Il y a des tentes et des bungalows et c'est la dernière nuit avant le départ. Alors vous le disiez, il y a une connerie. En fait, Léonard, 17 ans, assiste à la mort. Il est pour rien hein, dans cette mort par étranglement sur une balançoire d'Oscar, qui a 17 ans lui aussi, qui est le garçon qui vient d'embrasser Luce, parce qu'il sera question de Luce dans la suite, une fille du camping, mais qui vit pas dans le camping, qui vit à côté. C'est la fille d'à côté du camping. Alors, il pourrait venir en aide à Oscar, mais en fait, il ne lui vient pas en aide. Et non seulement il ne lui vient pas en aide, mais il fait disparaître le corps, le cadavre, sous le sable de la plage, en récupérant le portable d'Oscar. Pas parce qu'il a envie du portable, hein, je suis très clair, mais juste dans un geste totalement absurde. Et la suite du livre, c'est le récit du réveil, de cette dernière journée de vacances, donc écrasée de soleil, dans la proximité de Luce. Et ce qui m'a vraiment intéressé, je le disais tout à l'heure, c'est la façon dont votre personnage se donne dans une sorte, non pas d'indifférence, mais une sorte d'entre-deux, comme s'il était abruti justement par la chaleur, par cette absurdité aussi, dans laquelle il s'est jeté. Et il va comme ça flotter entre deux eaux. C'est le seul, par exemple, à ne jamais enlever son t-shirt alors qu'on lui demande. C'est le seul à vouloir presque subir la chaleur. Et il est beaucoup question de peau, il est beaucoup question de corps aussi, comme dans votre livre d'ailleurs, Geoffrine Donadieu. Il y a des injonctions à la jouissance, en fait, partout dans ce camping. Des haut-parleurs, le distributeur de préservatifs qui scintille. Et finalement, lui refuse ça. Et néanmoins, le corps parle par la transpiration, par les frôlements, par les battements de cœur, par les évanouissements aussi, dans une scène de hamac notamment, et puis les activités du camping, le bruit incessant, le lapin rose, l'animateur qui vient dire à tout le monde de jouer au hot Colin Maillard par exemple. Injonction à la jouissance que votre personnage méprise. Il y a les petits déjeuners, il y a les tapes pliantes, les étreintes sous la tente, les baignades dans les vagues aussi, les frôlements au bord de la piscine. Et puis cette fille, Luce, qui vit juste à côté dans une maison au volet vert. Il y a plein de sensations dans ce livre. Il y a la chaleur du soleil, il y a aussi les odeurs de frites, le toucher des peaux. Ce roman, il est né d'une sensation, il est né de lecture, il est né d'image.
il est né quand même de souvenirs de camping. Hein. J'en ai fait beaucoup et je voulais voir ce qu'il y avait de terrible, de tragique, d'angoissant, de pathétique aussi derrière toutes ces images présentées souvent par le biais de la comédie ou de la légèreté. Donc là, il s'agissait qu'un adolescent se réveille là-dedans avec une espèce d'énorme gueule de bois. Il a fait quelque chose d'irréparable et c'est comme peut-être une drôle de paire de lunettes qui lui tomberait sur les yeux et qui lui font apercevoir tout ça pour la première fois comme le cirque que c'est tous ces adolescents qui en vérité sont un peu des somnambules. Lui en fait c'est une sorte de somnambule qui se réveille au milieu des autres et qui s'aperçoit qu'on fait des choses sans en avoir envie, dicté par les regards, par les normes, par les injonctions en effet. Et du coup il est décalé, il est à côté et c'est ça qui fait aussi bizarrement que pour la première fois il va vers le désir. En effet il y a cette fille qu'il rencontre et vous voyez c'est terrible, c'est comme s'il avait besoin de faire une aussi grosse bêtise pour enfin éprouver du désir et c'est comme s'il se réveillait, voilà, il se réveille avec du désir pour la première fois de sa vie.
Alors on pense aussi, c'est vrai, parfois à des textes comme L'étranger aussi, avec ses absurdités, une lame qui luit sur un couteau et qui vous fait commettre l'irréparable. Ça a été une des inspirations aussi, quand je parlais de ses sensations tout à l'heure ou de ses lectures?
Oui, évidemment, à l'étranger, ça planait pour des raisons évidentes, presque techniques. Il y a en effet une plage, un soleil, un mort. Mais en fait, là, on parle d'écrivain, mais je crois qu'il y a un truc, moi, qui m'a vraiment nourri. Et c'est pas pour faire une pirouette, c'est pas un livre, c'est une peinture, en fait. J'ai vu une peinture de Munch. Qui s'appelle Le Meurtrier. Munch peint de toutes les couleurs un champ, et au milieu de ce champ, il y a un homme qui marche. Et l'homme a le visage vert. Mais vraiment vert, hein, comme The Mask. Et il vient de tuer quelqu'un. Et en fait, c'est ça un peu, je pense, l'histoire. C'est quelqu'un qui fait une chose terrible et qui, par là, se transforme, devient vert. Et curieusement, le fait d'être vert, ça le fait s'insérer dans le paysage, en fait. Parce que Munch, il peint aussi les herbes, le ciel, les nuages verts, des fois. Donc il y a une espèce d'absurdité. Il fallait ça, il fallait ce drame pour enfin tomber amoureux, en gros, s'insérer dans ce paysage.
Vous avez choisi la première personne, hein, Victor Gestin. Je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait de La Chaleur. Alors j'ai choisi un passage où justement il est question de cette injonction au désir, en fait, de pratiquement de tout le camping, comme si le monde voulait qu'il désire et lui ne veut pas.
Donc à cet extrait, il se trouve avec la mère de l'adolescent qui est mort. Il essaie de lui avouer ce qui s'est passé en vain. Et la mère lui parle. Profitez-en, c'est vos meilleures années. Nous, on part cet après-midi. On reviendra l'été prochain, mais on prendra une tente. Ils exagèrent un peu sur le tarif des bungalows. Elle m'a souri encore et j'ai baissé la tête pour ne plus la voir. Et puis aussi pour qu'elle m'interroge, me secoue, découvre tout d'elle-même puisque je ne savais ni parler ni pleurer et que j'avais la tête d'un ange. Je l'ai sentie s'éloigner dans mon dos. Elle est rentrée à l'intérieur. Je me suis retrouvé seul, encore, dans le plus grand des calmes. Ma tête inclinait le paysage. Un cortège passait. Le lapin rose emmenait des ados vers la plage. Ils chantaient. Parfois, leurs bras se levaient et semblaient pointer le soleil. Ils ne souffraient pas. Depuis quelques étés, déjà, la chaleur ne cessait de s'intensifier. Chaque année, elle surgissait plus tôt, cette fois dès février, et on l'avait accueillie sans crainte, trop heureux de finir l'hiver. On avait dressé les terrasses des bars sans présager du pire. La vraie brûlure, on ne la sentait pas venir. Je me demandais à compter de quel degré cela serait trop. Tout se renverserait. On fuirait ce camping comme on saute d'un appartement en flammes et le lapin resterait seul à danser. Je voulais bouger. Je me haïssais d'être allongé là sans agir. Mais mes yeux se fermaient. Le sommeil me rattrapait enfin. On ne dormait jamais beaucoup ici. On se couchait tard, puis on se levait aux premières lueurs pour partir avec les autres, en rang bien serré vers la joie.
Merci. Vous faites un regard très sombre, Victor Gestin.
C'est particulier comme exercice de lire, mais ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui vous gêne?
Non, je trouve que c'est un vrai travail, quoi, en part entière. Le travail des acteurs aussi, de s'approprier un texte et d'en restituer les intentions.
Ouais. Vous avez fait un drôle de regard à la fin, comme si vous étiez détaché de ce texte, vous étiez en train de... C'est dur de se lire.
Ouais, qui a écrit cette merde? Non. Non, mais ouais, c'est... Non, vraiment, quoi. Je crois que c'est un vrai travail à part entière et je me sens pas très capable de le faire.
C'était très bien. Je disais, première personne, c'était immédiatement... Ce choix-là, vous avez essayé à la troisième, à la deuxième?
C'était immédiat et à vrai dire, j'ai du mal à faire autrement et je crois que... Enfin là, il s'agissait quand même de coller un personnage à ses sensations, un personnage en plus qui n'est pas moi, bien sûr, mais qui vient quand même aussi de beaucoup d'impressions, de sensations. Donc pour être au plus près, en fait, le travail, c'est vraiment de trouver une voie la sienne, une voix qui soit en équilibre entre pareil, le désir, le dégoût, le morbide, et puis quand même quelques élans des fois vers la danse ou vers la lumière. Donc le gros travail, c'était de trouver sa voix, et j'envisageais pas trop de l'écrire autrement.
Il y a une langue justement à trouver quand on écrit, ou de trouver sa voix, ça passe par une langue. La vôtre, elle est tranchante, elle est faite de peu de mots, comme si vous aviez vraiment, j'allais dire, presque dépouillé au couteau, quoi, justement, les phrases pour qu'elles soient le plus coupant possible. Ça a été un long travail que de soustraire les phrases à cet ensemble pour arriver à ce que vous vouliez.
Bah, je pense que le gros travail, c'est celui de la sincérité, en fait. Sincérité d'abord dans ce qui se dit, évidemment. Donc, mais c'est pas seulement de la spontanéité ou de l'impudeur. Et c'est aussi de la sincérité dans la langue. Et là, il y a des trucs un peu techniques, je crois. Par exemple, des tendances qu'on a en écrivant de rajouter des mots, d'entendre une rime et d'en être ravi, et du coup, de la garder au dépens du sens. Ou alors de dédoubler des adjectifs, des fois, par réflexe curieux. Alors, le travail, c'était ça aussi, d'aller au plus près du ressenti du personnage, ne pas en mettre trop, ce qui fait que le livre est moins épais qu'au départ.
Mmh. Ah oui, c'est comme ça. Un livre, effectivement, c'est pas une addition de phrases, mais une soustraction, souvent. Est-ce que c'est une charge contre l'obligation de jouir, qui est peut-être lancée à votre génération aussi, enfin, à toutes les générations de jeunes, quand la jeunesse est sommée de jouir. Il y a cette phrase, hein. Après tout, nous étions tous ici pour jouir. Alors, c'est vrai que c'est un camping, donc elle est dédoublée, cette injonction.
Oui, je pense que les adolescents sont très visés, très touchés par ça, mais que par ailleurs, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis des décennies, qui monte, qui est en fait le marché de la jouissance, du plaisir qu'on vend, qu'on pourrait analyser aussi sur les réseaux sociaux, mais dans le développement personnel, la tendance festive de la société. Mais là, plutôt que d'avoir des considérations globales dessus, il s'agissait de voir dans le détail, dans un camping, sur des adolescents torse nu, qu'est-ce que ça fait de dégâts sur leur corps, sur leur désir, en fait, de façon très concrète. Mmh. Ce grand marché dans lequel ils sont finalement dans un des temples de ce marché, un temple de la joie, un camping, voilà. Ouais. Mais il y en a d'autres, hein, des endroits comme ça.
Il y a finalement une injonction aussi, disons, morale dans ce livre, d'avertissement, de charge, je le disais, de dénonciation de cet état des choses.
Non, je crois que ça, il faut s'en garder, il faut plutôt mettre les choses comme on les sent, mettre les forces morales en présence, les mettre dans un livre. Moi, j'admire beaucoup les livres qui font ça, les livres amoraux qui arrivent.
Lesquels?
Je pense là, on va dire des gros mots, mais Faulkner, Dostoïevski, qui arrivent à mettre en scène les forces qu'ils estiment en présence et sans prendre parti, les font s'affronter, les font dialoguer dans une fiction.
On parlait avec Geoffrine Donadieu, on a l'occasion d'y revenir, de cet atelier d'écriture que vous avez fait. Quel a été, vous, votre, parce que vous n'avez pas fait d'atelier d'écriture, mais votre propre atelier d'écriture? Est-ce que vous avez pris, par exemple, ces romans que vous admirez, de Dostoïevski ou de Faulkner, pour voir comment c'était fait? Voilà, un peu ouvrir le moteur.
Oui, alors évidemment, les livres marquent, et je pense que le travail aussi, d'ailleurs, c'est de s'en détacher. Il y a des langues qui impriment tellement que le but aussi, c'est de s'en détacher. On s'aperçoit qu'on est en train de pasticher ridiculement un auteur qu'on aime. Il y a ça, et puis je pense que le cinéma, moi j'ai fait des études de cinéma, et je travaille aussi comme scénariste, et je pense que là, en ayant bien conscience toujours que c'est absolument pas la même chose, un scénario, un roman, bien sûr, il y a quand même des passerelles, et je pense que sur un peu une certaine exigence d'écriture, sur le montage des phrases, le découpage, vous voyez, en fait, tous ces termes du cinéma qui peuvent venir aussi dans une problématique littéraire. Je pense que des questionnements sur le cinéma aussi ont été importants pour cette écriture.
Vous dites que vous êtes scénariste, plus précisément, en fait, qu'est-ce que...
Alors, c'est comme pour ce livre, c'est au début, j'ai pas grand chose à montrer, sinon des courts-métrages, notamment, que j'ai travaillé avec un grand ami réalisateur qui s'appelle Thomas Petit. On écrit son premier long-métrage en ce moment. Donc, là, je suis sur deux trucs, quoi. Écrire le deuxième roman et puis écrire aussi des scénarios.
Est-ce que vous faites une hiérarchie entre l'écriture d'un roman, entre la littérature et l'écriture d'un scénario et le cinéma?
Une hiérarchie, en tout cas, de préférence dans ma tête. Ouais, la littérature me procure beaucoup plus de plaisir à l'écriture et la lecture. Mais au-dessus, il y a la musique. Voilà, la musique, ça
au-dessus de la littérature.
Oui, bien sûr, largement, ça remporte tout.
Pourquoi vous dites ça?
Mais parce que je crois vraiment qu'en quelques accords, qu'en quelques secondes, la musique peut formuler comme ça ce que la littérature s'échine à faire en des centaines de pages. C'est mon ressenti, il est complètement discutable, mais vraiment, quoi, j'ai l'impression des fois que la musique anticipe et en avance toujours.
Et vous maîtrisez la musique?
Je fais des percussions, mais j'ai dû arrêter parce qu'il n'y a pas la place pour les mettre dans mon appartement, ces percussions.
D'accord, alors que pour une table, dès qu'il
voilà. Hein. Voilà, y a, ça, c'est voilà. Plus facile. Mais non, mais j'en écoute beaucoup et c'est très nourrissant.
Et puisque vous parlez de percussions, je pose une question que j'ai rarement l'occasion de poser, parce que je ne sais pas d'ailleurs si elle est pertinente ou non. Vous écrivez comment ? Est-ce que vous tapez sur des touches comme sur les percussions ? Est-ce que
je fais les deux en fait, d'une version à l'autre. Je commence à l'ordinateur, si on veut rentrer dans le détail, ordinateur, puis main, puis ordinateur, puis main, et ça permet de surpasser des fois une sorte de flemme qui peut faire qu'on travaille pas assez. C'est-à-dire, bon, je vais faire un copier-coller en gros, et puis je vais reprendre à peu près. Là, à chaque fois, il s'agit de tout réécrire d'abord avec un stylo, puis avec un ordinateur, et ce truc très artisanal oblige à aller au plus loin. Je pense qu'on peut.
Revenir à la main, quoi.
Revenir à la main.
Voilà. Et vous, Geoffrey Donadieu ?
Alors, quand j'écris, c'est toujours en musique. Ouais. Parce que parfois la musique me donne un rythme dans mes phrases. Et je suis comme Victor, je passe de l'ordinateur au stylo, mais je crois que j'utilise le stylo quand tout d'un coup je n'arrive plus, j'ai plus du tout d'inspiration. Et ça débloque, parce que j'ai l'impression que le stylo, c'est une prolongation de la main, alors que le clavier, ça met tout de suite beaucoup plus de distance. Donc, ce n'est pas la même écriture.
Et vous écrivez en musique. Alors, oui. Vous avez besoin de ça, mais toujours. C'est pas avant, même
non,
pendant.
Ouais. C'est pendant. Alors, des musiques sans paroles, hein, c'est souvent de la musique classique, mais c'est vrai que ça permet de trouver aussi des nuances, des accélérations et ça m'aide beaucoup, puis ça m'aide aussi à m'enfermer dans ma bulle.
Alors on va écouter de la musique, c'est celle que vous avez choisie. Alors NTM et alors laquelle Geoffrine Donadieu.
Alors j'ai choisi Postongen de NTM parce que ça pulse, ça envoie et je crois que Romy elle est comme ça.
Et il y a aussi peut-être un message sur le livre Postongen, faire la paix, c'est un roman de guerre.
Ouais, c'est un roman de guerre. Donc Postongen, arrêtons de faire la guerre mais Romy va écouter d'ailleurs Postongen dans ses écouteurs le long du canal, elle va courir et elle va crier, elle va hurler, et elle va chanter Postongen.
On écoute Postongen NTM.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Postongen, NTM, c'est le choix de Geoffrine Donadieu qui publie une histoire de France chez Gallimard. Mais vous aviez quoi ? Vous aviez 10 ans, quand NTM était à l'œuvre à l'époque de Postongen.
Oui, j'étais toute petite, mais je l'ai écouté plus tard, à l'adolescence, avant. Ouais. Je devais écouter Dorothée, probablement.
Pourquoi ce choix musical Postongen pour cette histoire de France ? Ou pas, d'ailleurs ?
Parce que Romy mène une guerre et elle écoute Postongen dans ses écouteurs en boucle quand elle va courir au bord du canal. Elle a besoin de se défouler, d'expulser, de crier sa rage, sa haine, sa survie. Et je trouve que la voix de Joey Starr s'y prête bien.
Et de Cool Chen, quand même, aussi. Quand même, on l'oublie toujours.
Aussi,
non, on l'oublie
pardon,
pas.
Pardon.
Geoffrine Donadieu, vous disiez que vous aviez besoin d'écouter de la musique quand vous écrivez. Victor Gestin, vous disiez, surtout pas, hein, ce que vous m'avez dit pendant qu'on écoutait NTM.
Bah oui, surtout pas. Moi, je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'écrivais un roman d'aventure en écoutant de la musique un peu épique. Vous voyez, Hans Zimmer, des compositeurs comme ça, de la musique de film. Et après, je me relisais dans la science et je me disais, merde, putain, il manque quelque chose.
Ah oui, Hans Zimmer traduit en littérature. C'est une chose.
Il faut faire attention à pas se faire aliéner. Mais par contre, avant, après, bien sûr.
Et quand vous disiez que la musique était supérieure à la littérature, vous pensiez à quel musicien?
Non, mais je dis pas que c'est supérieur. Je dis pour moi, ça compte plus.
Non, pour vous. Oui, bien sûr. Vous pensez à quel genre de musique?
Je sais pas, le plein. Moi, je pense à des compositeurs, par exemple, de musique que j'aime. Mahler, par exemple, Gustave Mahler, qui arrive à superposer des registres, à mélanger de la musique folklorique avec de la musique très, très savante. Je pense à, mais tenez, par exemple, on parlait de la musique qui va plus vite, qui anticipe. Il y a Boléro. Bien, voilà, Boléro, Ravel. Donc, la même mesure qui se répète inlassablement de plus en plus fort, jusqu'à ce que ce soit trop, quoi, que ça explose. Ben, ça, est-ce que ça, ce serait pas une série entière, un film entier, rien que ça? Toujours la même scène qui tourne.
Plein de pistes. Geoffrine Donadieu, vous pensez que la littérature arrive au second rang?
Non.
Il y a la musique. Non.
Non, mais je pense qu'on peut pas les classer. La musique, la peinture, la sculpture, l'écriture, ce sont des formes d'art, des formes d'expression. Et après, libre à chacun de choisir celui qui lui convient.
Alors, ça s'appelle Histoire de France, votre premier roman, puisque cette émission est consacrée à cette rencontre entre deux écrivains qui publient leur premier roman. Parce qu'il y a un mot pour ça, mais il est un peu technique et on peut s'en passer. Donc, ça s'appelle Histoire de France, mais c'est d'abord l'histoire de Romy, c'est une fillette de 9 ans, abusée par une femme prénommée France. Ça s'appelle Histoire de France et c'est la description d'un territoire de France, Toul, en Lorraine, une petite ville qui, dans votre livre, semble réduite, bah oui, à un canal, hein, dont on parlait tout à l'heure, une base militaire, à une usine, un McDonald's, un centre commercial. Et dans ce cadre apparemment banal, on va suivre la dérive. Alors voilà, est-ce qu'on suit d'ailleurs, je termine et puis on revient sur ce mot de dérive. La dérive, moi je dirais, de Romy pendant 10 ans. Romy qui déteste son corps, qui le mutile, qui lui fait subir un certain nombre d'outrages. Elle a des raisons, puisque tout ça est peut-être à cause de France, la voisine qui l'abusait. Je raconte, hein, en deux mots, sa mère est très malade quand elle a 9 ans, très fragile. Son père est militaire, il se console un petit peu dans l'alcool. Ce sont des êtres à qui il est difficile de parler. Et puis un jour où elle est gardée par la voisine qui a 2 petits garçons, eh bien France, donc la mère de famille, accepte de la garder pour dépanner les parents et la viole. Et ça se reproduira. Et c'est Histoire de France, c'est un livre dur, hein, parce qu'il raconte crûment ce qui s'est passé, mais parce qu'il raconte une vie saccagée par cette violence sur un enfant. C'est un livre qui, en cela, est aussi salutaire, surtout parce qu'il ne psychologise pas. Il dit les choses vraiment comme elles sont, j'allais dire comme elles font, comme elles défont, surtout, comme elles défont les êtres. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas d'exagération, sauf peut-être dans les titres des 3 parties. Le chemin des dames, 14-18... Gueule cassée. C'est vrai que c'est très intéressant, cette idée. On est dans un territoire qui a connu ça en 14-18. Et en fait, vous faites comme si cette violence était reproduite. Victor Gestin parlait de superposition pour Gustave Mahler. Vous superposez justement ces strates d'histoire, l'histoire de France, l'histoire de Romy et l'histoire de France, le pays. En quoi c'était important pour vous de jouer sur la comparaison entre ce chaos intime et la Grande Guerre?
C'est important parce que ce livre est une histoire de guerre. Romy mène une guerre contre son corps et contre France. Son père Philippe mène une guerre de territoire puisqu'il est militaire et il fait la guerre en Afrique. Et la mère Hélène mène une guerre contre la maladie, contre son corps. Et les 3 mènent leur guerre sous ce toit. Et en plus, tous les 3 sont corps objets. Il y en a un, le père est une arme, la mère, elle teste des médicaments, et Romy donne son corps. Donc il y avait toute cette notion du corps objet pour ces 3 personnages.
La mère est malade, hein, elle a aussi cette maladie de Crohn,
oui.
Hein, c'est ça. Voilà. Alors comment se fait, encore plus, là vous le développiez, mais le parallèle entre ce territoire de France et le bourreau France, on peut l'appeler bourreau, même si c'est ambigu, qui persécute votre héroïne et qui casse ce qui devrait plutôt être construit.
J'aime écrire sur les invisibles, le public empêché, les emmurés, et il y a toute une partie de personnes en France qui sont oubliées, et cette France-là est oubliée, certains territoires sont oubliés, et la littérature ne les fréquente pas souvent, pas tout le temps, et c'était important de dire qu'il y a cette France aussi.
Alors cette France, comment vous la définissez justement, cette
La France des oubliés, la France des abandonnés, des délaissés, et une France, la France de la pauvreté, de l'ennui. Mmh. Et je pense que Romy se situe dans cette France.
Et France aussi, le personnage. Alors, comment se lance-t-on dans une telle histoire de pédophilie féminine, sous-titrée roman, hein? Je tremble un peu en posant cette question, Geoffrine Donadieu, parce que vous remerciez à la fin votre éditeur, Jean-Marie Laclaftine, de vous avoir aidé à traduire le silence.
Quand on fait un roman, un premier roman, on utilise toute la matière que l'on a en soi. J'anime des ateliers en psychiatrie avec des enfants. Je fais beaucoup d'ateliers dans les hôpitaux pour enfants malades. Et j'ai recueilli de nombreux témoignages avec ces enfants qui ont été abusés, qui ont été victimes d'hommes et de femmes. Et tout cela se traduisait par des textes, par des mots, par des dessins. Et je voulais écrire un livre sur cet abus, ce viol d'une femme, pas une femme. Et puis j'ai mes questions de fillette, de jeune fille, d'adolescente également sur la construction de l'identité, du féminin, de la femme, de la mère, et tout cela mélangé, ça donne de la matière pour un roman.
Et vous remerciez quelqu'un aussi qui a plongé dans les eaux troubles pour vous remonter à la surface.
Oui, parce que j'ai été adolescente et que l'adolescence c'est une période vraiment difficile à traverser et que j'ai eu de la chance, j'ai fait de belles rencontres sur mon passage et j'ai toujours eu des personnes qui m'ont aidé.
Est-ce que la littérature permet, on parlait de voix tout à l'heure avec Victor Gestin, il y a la voix effectivement du romancier, de l'écrivain, que le jeune écrivain, disons celui qui débute, doit trouver. Hein. Est-ce que la littérature permet de retrouver aussi une voix? C'est non seulement de trouver une voix d'écrivain, mais de retrouver une voix pour sortir justement des zones troubles.
Je pense que c'est les deux, c'est trouver une voie, retrouver une voie et trouver sa voie aussi. C'est vraiment VOIE et VOIX. La littérature, les mots permettent tout cela.
Je voudrais qu'on vous entende lire, Geoffrine Donadieu, donc un passage de cette histoire de France. Alors j'ai choisi justement, on parlait de la consommation et de la tout à l'heure avec Victor Gestin. C'est un moment, et d'ailleurs ça nous permettra de parler de ça, peut-être de l'ambiguïté, parce que quand je disais il n'y a pas de pathos, il n'y a pas non plus de... C'est pas clivé, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que Romy est parfois heureuse d'être avec France. Et là, France l'emmène en fait faire du shopping, comme on dit, mais elle l'emmène dans une boutique de lingerie.
Oui. Dans la glace, elles font des mous et se penchent d'avant en arrière. Celui-là, le maillot de bain noir, suggère la fillette. France attrape le body échancré et lui demande de l'aider à fermer les pressions placées en dessous de son sexe. La petite s'agenouille pour relier chaque côté et frôle les poils roux. France remet ses talons pour marquer sa cambrure. « Tu me trouves comment ?»« Très belle. » Toutes les deux choisissent les articles que France doit absolument acheter. À la caisse, elle ajoute un range-pyjama en forme de mouton. « Comme ça, tu penseras à moi avant de te coucher. » À la sortie de la galerie marchande, la fillette entraîne France dans un photomaton, un dernier souvenir de cette belle journée. France dévisse le tabouret et Romy s'assoit sur elle. La fillette redresse la couronne et arrange ses cheveux qui dépassent. France se passe la langue sur les dents pour enlever une trace de rouge à lèvres. Elle se sourit, puis fixe l'objectif. 3, 2, 1, flash. De manière furtive, Romy l'embrasse sur le coin des lèvres. La tête haute, chacune avec son sac rose à la main, elle se dirige vers une terrasse de la place Stanislas. Il fait froid, mais France veut profiter des premiers rayons de soleil. Les pavés de la place éblouissent, Romy cligne des yeux. Elle mélange le chocolat et le lait apporté dans un pot à part. C'est la première fois qu'elle ne boit pas de la poudre qui fait des grumeaux. Elle savoure, bien droite sur sa chaise pour ne pas faire tomber sa couronne. Elle souffle sur ses mains bleuies et les cache dans ses poches. France regarde sa montre plaquée or, il faut partir. Sur sa main, la petite dépose une chenille de baiser. France empoigne les boucles blondes, tire sa tête en arrière et l'embrasse en lui laissant une marque rouge. On fait la course jusqu'au bus, princesse ?
Merci Geoffrine Donadieu, un passage de Une histoire de France qui sort chez Gallimard. Vous avez choisi une langue alors qui est moins à l'os que celle de Victor Gestin, mais qui est très précise, très clinique, c'est-à-dire qu'elle va vraiment dans le détail du geste que vous décrivez, en évitant finalement les images, en fait, c'est très très précis. Est-ce que vous avez longuement tâtonné justement pour trouver cette langue? Est-ce qu'on vous a guidé aussi, puisqu'on parlait d'atelier d'écriture tout à l'heure?
Non, ça a été assez direct. Je voulais que ce soit cru, que ça pulse, que j'avais très envie que le lecteur torde, balance, déchire, reprenne le livre, en fait. J'avais vraiment envie que ce soit physique et qu'il y ait un réel rapport entre le lecteur et le papier.
Et ce qui est troublant, on l'a vu avec ce passage, c'est que votre personnage de Romy, donc la petite fille qui devient une adolescente, anorexique, boulimique, très en quête aussi d'un désir à inspirer en fait à beaucoup de gens, comme si elle était en manque de ce désir qu'elle n'a plus, puisque France disparaît au fond. Elle ne s'exprime pas comme une victime, jamais. Elle s'exprime parfois même comme une élue. Mm-hmm. Et c'est très très troublant de lire ça comme ça, on sent que c'est voulu. En quoi c'était important? Dans quelle mesure il fallait ne pas être dans le clivage classique, bourreau-victime, mais jouer sur cette inconfortable ambiguïté?
Parce que si Romy se plaçait comme victime, elle serait morte. Elle a forcément sublimé sa relation, elle l'a enjolivée, elle a même pensé, à mon avis, à un moment donné, que c'était de l'amour, puisqu'il y avait de la place à prendre, son père et sa mère n'étant pas là. France avait toute la place pour lui donner de l'amour, une forme d'amour particulière, mais forcément Romy s'en est emparée. Et elle a grandi avec, et pour se construire, elle ne pouvait que sublimer cette histoire pour essayer de se construire. Et est-ce qu'elle s'est vraiment construite?
On en a parlé tout à l'heure un petit peu, en tout cas on l'a mentionné, Louis Calafert, oui, qui est très très présent puisqu'il scande chacune des parties de ce livre. Quel rôle justement donné à la présence de Calafert, qui, je rappelle, qui est l'auteur de Septentrion dans les années 60, un livre sur lequel étaient tombées deux interdictions, interdiction de vitrine et de vente en librairie. C'était le ministère de la Santé qui avait décidé ça, puis le ministère de l'Intérieur. Et il faudra presque 20 ans pour que le livre soit enfin édité aux éditions de Noël. Alors vous citez plutôt la mécanique des femmes, qui est plus tardif et qui est le récit d'un séducteur,
oui,
en fait.
Je cite la mécanique des femmes parce que j'aime beaucoup enfin pas que pour celui-ci, le choix des mots de Calafert, sa précision, sa crudité aussi, et l'ambiance qu'il met, voilà, il y a aucune fioriture, il y va, c'est très c'est assez organique, je trouve.
Mais est-ce que c'est pas aussi, moi je me suis demandé ça, est-ce que c'est pas aussi à cause du titre La mécanique des femmes que vous emmenez quand même le lecteur, la lectrice, dans peut-être un effort de compréhension de la mécanique des femmes et de la mécanique de cette femme, France.
Ah.
Une femme qui abuse une petite fille.
Alors là, je vous avoue, je n'avais pas réfléchi à cela. J'ai l'impression que vous décortiquez mon texte comme au bac. Et
Non, je vous en prie.
Non, je plaisante. On
essaie de comprendre la mécanique, oui, de France. Qu'est-ce qui pousse cette femme-là?
Oui, on essaye de la comprendre, mais avant tout, j'ai choisi Calafert pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et du milieu duquel il vient. Il n'est pas du tout issu du milieu de la littérature. Ses parents n'étaient pas des personnes riches, ne lui ont pas apporté toutes ses connaissances, et il s'est fait par lui-même. Et ça, c'était vraiment important pour moi.
Est-ce que France vous intéresse comme personnage?
Je pense que France est un personnage très complexe. Elle est en retrait d'ailleurs dans le 1. On l'aperçoit, on essaye de la connaître, mais elle est très elle est aussi effacée. Elle est présente et effacée.
Oui, on voit son chignon, par exemple, dans le bus qu'on aperçoit.
Et dans les deux autres parties, on ne la voit plus. Elle n'existe plus. Oui. Elle est partie. Son mari est muté à La Réunion et elle s'en va. Donc France, c'est une sorte de spectre qui flotte. Et comment comprendre cette femme, quoi? Surtout ne pas essayer de la comprendre, c'est un crime qu'elle commet.
Est-ce que la littérature, vous avez dit, vous travaillez avec des jeunes gens, vous recueillez la parole. Est-ce que vous pensez que la littérature a aussi, vocation à à faire entendre certains, voilà, certains crimes. Parler de morale un peu avec Victor Gestin sur la surconsommation dont sont peut-être victimes, enfin l'injonction à consommer, à jouir dont est victime peut-être la jeunesse. Là, c'est une forme d'emprise que vous dénoncez. Est-ce que vous vous attendez à, est-ce que vous le faites aussi pour aider certaines,
oui, mais
certaines personnes qui n'ont pas cette voix, pour le dire?
Je les aide à s'exprimer, mais ils choisissent vraiment quel support ils désirent utiliser. Ça peut être de la peinture.
Non, mais je disais sur le livre, le fait d'écrire une histoire de France.
Oui, je pense que c'est bien de leur donner une voix à tous ces petits soldats qui mènent leur guerre et on ne les connaît pas.
Oui, de soldats inconnus.
Oui.
Voilà.
Oui,
ça,
oui.
C'est important pour vous de revenir à ça, à cette imagerie guerrière. C'est pas seulement l'idée de la base militaire.
Non, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui mènent leur propre guerre de leur côté et pour moi Romy c'est cet enfant c'est ce petit soldat qui part à la guerre tous les jours, qui lutte pour vivre et qui est dans la survie constante.
C'est un livre au-delà du sexe en fait et de l'abus sexuel sur le corps tout entier, hein. On va suivre l'évolution du corps de Romy. C'est d'ailleurs l'un des points communs entre vous, l'écriture du corps, Victor Gestin. Est-ce que vous pensez, pour terminer, puisque vous vous jetez dans cette, je ne vais pas dire cette profession, mais en tout cas dans cette nouvelle vie d'écrivain, est-ce qu'on écrit d'abord, avant tout, est-ce qu'on n'écrit pas avant tout d'abord avec son corps?
Je pense.
Là, moi, j'ai la confirmation très nette à quel point je vois comment je somatise. Hein. Ah, oui. Alors là, franchement, j'ai jamais autant mal au dos que maintenant. Hein. Donc, je pense qu'il y a des gros liens. En effet, c'est quand même un truc de fou, quoi, la somatisation. À quel point ce phénomène, à quel point il est palpable, à quel point il paraît magique, quoi.
De somatiser comment? Alors, avant les soupirs de Jovine, avant d'élucider la raison de ces soupirs, vous somatisez ça, quoi? Vous êtes inquiet?
Je pense que c'est pas seulement d'avoir fait un faux mouvement qui fait mal au dos, c'est aussi qu'on est angoissé, qu'on est littéralement penché sur son histoire beaucoup trop, quoi.
Beaucoup trop, Geoffrine, de Nadia, vous faisiez.
Oui, parce que c'était quand j'écrivais ce livre, mais j'ai tout eu, fracture de la clavicule, un nombre incroyable d'infections, dès que je courais, je me pétais la cheville. J'ai bien somatisé pour me mettre à la place de cette petite fille, pour l'accompagner. C'était un réel accompagnement et c'est pour ça que j'ai très envie d'écrire, de poursuivre, mais je me dis oulala, que va-t-il se passer?
Est-ce que vous attendez quelque chose de celles et ceux qui vont lire Geoffrine Donadieu? Qu'est-ce que vous attendez au fond de cette publication là, du fait d'être lu? Vous avez écrit, du fait d'être lu. Maintenant.
J'espère leur procurer beaucoup d'émotions. J'espère qu'ils ont vécu, accompagné Romy et France, qu'ils ont pleuré, qu'ils l'ont refermé, qu'ils l'ont repris, qu'ils ont essayé de comprendre. Voilà, c'est surtout beaucoup d'émotions que j'espère qu'ils ont eues.
Et vous, Victor Gestin?
Bah, peut-être comme ce qu'on disait sur la peinture, j'attends que ça me renseigne sur ce que j'ai fait, que ça me renseigne aussi sur ce que j'ai peut-être raté et que comme ça je rate moins dans le deuxième.
L'exercice, voilà, ouais. La 16 de l'écriture. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Je rappelle le titre de vos ouvrages, Une histoire de France de Geoffrine Donadieu, c'est chez Gallimard. La chaleur de Victor Gestin, c'est chez Flammarion. Bravo encore, longue vie à vos romans et bienvenue. Et à bientôt. Le temps des écrivains, c'est Tom Umdenstock, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Manuel Couturier à la technique avec la complicité d'Alexis Kayser. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour réécouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Geoffrine Donadieu et Victor Gestin qui publient donc leur premier roman en cette rentrée 2019.